Vivrons-nous demain ? Une émission de Jean-Pierre Estrampes. Architecture, urbanisme, cadre de vie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui arrive avec la prochaine arrivée des municipales, des élections municipales dans les villes françaises. Et les programmes commencent à être publiés dans les boîtes aux lettres, sur les réseaux. Et les débats vont s'enchaîner prochainement. Alors, un coup d'œil rapide aux différents programmes sur la bonne ville de Toulouse est tout à fait intéressant parce qu'il y a diverses thématiques qui sont abordées, qui sont les thématiques de la vie des gens. Tout cela est fort intéressant. Simplement, le thème du logement me paraît ne pas apparaître en première ligne et apparaît dans les programmes comme quelque chose d'accessoire par rapport à la circulation, l'écologie, enfin d'autres thèmes sur la santé, etc. Thème tout à fait légitime par ailleurs. Mais vous allez me dire, bon, vous êtes une émission d'architecture et vous ne regardez que ce qui vous intéresse. Ben, c'est vrai, mais la question c'est que c'est la question essentielle pour les familles, non seulement pour les familles, mais pour les couples et aussi pour les célibataires, la question du logement dans les villes. Et on se trouve dans notre bonne France, et pas un problème toulousain uniquement, avec une pénurie de logements accessibles, avec une, on peut dire, une renchérissement des loyers, mais aussi des coûts d'appartement, ce qui impacte à la fois l'économie des ménages, des familles, des individus, puisque, comme vous le savez, le logement représente une partie importante de la dépense mensuelle des familles, que ce soit pour payer un loyer avec ses charges, que pour rembourser un emprunt. Évidemment, on va exclure de cela les personnes qui sont d'un certain âge, qui ont déjà remboursé et qui sont propriétaires de leur logement. Mais la question est, évidemment, c'est les familles et les jeunes couples. Et on sait que avec le problème démographique français, cette baisse que nous avons depuis des années, mais qui actuellement atteint un seuil critique, puisque le 2025 a vu les décès dépasser les naissances, donc c'est véritablement un vrai problème. Alors, le logement ne va pas tout résoudre, mais on sait que le logement est la question principale des jeunes couples ou des familles également, c'est que l'enfant additionnel demande une surface plus grande, une chambre de plus, et que aujourd'hui on a fait beaucoup de studios, mais on se trouve avec justement cette difficulté d'acquisition et aussi de on peut dire oui de surface, ce manque de surface sur les logements. Alors, ce n'est pas une fatalité. cela est le fruit de différentes sources qui sont propres à la France, qui ne sont pas un phénomène général dans tous les pays. Ce n'est pas une catastrophe climatique, c'est tout à fait le fruit des politiques. Et les raisons sont multiples. Alors la première, c'est la surréglementation qui a fait augmenter le prix des surfaces de logement, la surréglementation qui est due à l'énergie. Alors évidemment, tout cela est fait pour, on peut dire, satisfaire la planète, la consommation. Les raisons sont bonnes, mais les résultats sont qu'on a un renchérissement des coûts de construction. Alors, à cela aussi s'ajoutent des problèmes qui sont liés à la réglementation. Et là, je veux dire qu'il faut parler de l'écologie politique et de son rôle qui me paraît néfaste, parce que ce n'est pas l'écologie qui est néfaste, c'est l'utilisation abusive et qu'il en est fait, et notamment le fait que on est rarifié les terrains, ce qu'on appelle le foncier, les terrains à bâtir, et d'une manière qui est tout à fait excessive, c'est-à-dire que non seulement on a interdit le développement des communes, mais de ce fait, on a, sous le prétexte qu'il fallait favoriser le remplacement de terrains supposés libres ou de logements vétustes qui seraient remplacés par des neufs, tout en augmentant par exemple la hauteur des immeubles. Mais évidemment, cela ne fait que faire une inflation du prix du foncier, évidemment avec sa répercussion immédiate sur le prix de la construction, et surtout le problème, c'est que on se trouve avec très peu d'opérations de logement, et c'est pour les acteurs du logement, qu'ils soient privés ou publics, c'est la même chose, c'est un parcours du combattant pour arriver à avoir du foncier. Alors ça, c'est la question qui est posée au niveau des municipalités. Alors évidemment, il y a le problème de la loi qui doit être respectée, mais il y a une marge de manœuvre qui est donnée aux communes, et on aimerait bien que les candidats se penchent sur ce problème, et notamment sur le problème de la transformation de terres qui sont déjà urbanisées. Je pense notamment des zones industrielles dans lesquelles on pourrait avoir une reconversion, et j'en parlerai dans la deuxième partie de l'émission. Alors, je parlais des différentes questions qui sont posées sur le logement. Il y a effectivement d'abord la mise en chantier, le nombre de logements qui a baissé au cours des années, mais également quelque chose qui est très, très gênant, c'est la superficie des logements qui s'est réduite au cours des années. Alors là, c'est vraiment, ça va à l'envers, on peut dire, du développement général de notre société, où on a par exemple les immeubles de bureaux qui ont augmenté, on a des surfaces de culture, de sport, tout cela a augmenté par rapport aux décennies précédentes, et on se trouve avec le paradoxe, c'est que les logements sont de plus en plus petits. Alors, quelle est la raison pour cela ? La raison pour cela, c'est qu'en fait, on a appliqué des réglementations d'une manière assez brouillonne. Alors, notamment, on a appliqué, même si on est revenu dessus, les logements pour handicapés avec des demandes de circulation, avec la possibilité de faire tourner des fauteuils roulants. Alors, ça, tout ça part d'un bon sentiment, mais on a un peu ralenti sur cela, mais on était parti que la moitié de la population allait être en fauteuil roulant. Donc, il vaut mieux faire des appartements totalement équipés, ce qui est un peu la tendance actuellement, et lever le pied sur les aménagements pour les handicaps, surtout appliquée sur tous les logements. Alors autant, ça peut être justifié pour les lieux de travail, mais pour le logement, cette généralisation a eu un impact très négatif. Mais il y a aussi, dans la manière dont sont calculés, et là, ce ne sont pas des lois auxquelles on n'échappe pas, mais dans lesquelles sont calculées dans les opérations les impositions et les droits à construire. Et là, ça peut être modifié, et j'en parlerai dans la deuxième partie aussi, dans ce qu'on appelle les zones, les ZAC, les zones d'aménagement concerté. On a la possibilité d'établir des règlements qui font que on peut rajouter des loggias, on peut rajouter des pièces qui ne sont pas proprement de l'habitable, mais qui sont des pièces des réserves, des pièces d'annexes, etc., qui sont nécessaires de rangement, qui sont nécessaires dans un logement et qui n'impactent pas la possibilité, c'est-à-dire ça ne prend pas sur le nombre, sur les quotas de logements, mais ça permet d'avoir des immeubles qui seraient par exemple plus larges, et on sait que les immeubles anciens sont beaucoup plus épais, alors ça a aussi des avantages sur un plan de l'énergie, d'avoir des surfaces, des immeubles plus larges, mais aussi ça donne des pièces plus grandes. Et tout le problème, c'est de ne pas impacter les surfaces minimales de construction. Voilà, donc c'est un problème très important, et je vais développer dans la deuxième partie de l'émission la relation, on peut dire, un peu plus large de l'urbanisme. Oui, je veux revenir un instant sur ce problème de la largeur des immeubles qui est une donnée technique, mais ce n'est pas innocent comme propos. D'une part, les immeubles larges ont eu un meilleur confort thermique dans la mesure où il y a une masse plus importante. Et le prix de construction, c'est le rapport entre la surface de plancher et la surface des façades. Donc, de faire un immeuble de 12 mètres ou de faire un immeuble de 15 mètres, par exemple, même plus, et on peut aller bien au-delà, ça fait une construction qui est à peu près le même coût. Mais ça change complètement la vie des gens parce qu'on a des grands appartements. Alors, on sait que les immeubles, beaucoup d'immeubles des années 50 ont ce qu'on appelait des loggias, c'est-à-dire c'était des balcons abrités, avec la possibilité même de pouvoir les fermer ou en partie en une sorte de serre ou de moins de protection des brises de soleil et qui créent une pliesse extérieure. Alors, c'est une solution qui n'est pas chère à construire, mais qui est chère en coût de construction, puisque c'est la demi-surface d'habitabilité qui est prise en compte dans les règlements. Mais ces règlements, c'est des règlements, on peut dire, locaux, et qui peuvent être totalement modifiés. Donc, pourquoi je mets l'accent sur cela ? Parce que le problème de la maison individuelle qui est vilipendée par les écologistes et d'une manière un peu générale aujourd'hui, considérée comme mettant en danger la planète. Je ne vais pas aborder ce débat aujourd'hui, bien que le problème, c'est que le logement individuel permet des extensions. La plupart, d'ailleurs, c'est la première chose que l'on fait, c'est le garage qui est transformé en pièces, et ce qui est évidemment reflète bien la demande des populations pour avoir des surfaces habitables assez importantes. Pardon. Oui, la question que je voulais aborder, c'est la question un peu plus globale et qui devrait être l'axe fort de la discussion du débat des municipales, c'est la transformation de la ville et son éventuelle extension, cette transformation des quartiers, c'est-à-dire ce que l'on appelle, d'un terme générique, l'urbanisme. Alors, l'urbanisme, dans l'histoire, c'était ou la création de villes, les villes nouvelles les Bastides ont été créées à l'époque médiévale, c'était des créations ex nihilo dans la campagne où on créait des villes et on en a un grand nombre. Mais aussi, on a eu des villes nouvelles qui ont été créées dans le monde moderne. Autour des grandes villes, et à Toulouse on avait le Mirail qui était dans cette intention, qui a été, on peut dire, un axe fort de discussion justement, et avec une volonté forte. Alors que par la suite, le Mirail n'est pas rempli pour des raisons que l'on pourra développer sur cette antenne une autre fois, mais n'a pas évidemment eu ce rôle d'une ville idéale qui déséquilibrerait la ville ancienne. Et donc, de ce fait, peut-être dans une relation de cause à effet, on a, on peut dire, des pudeurs, un recul à peu près généralisé pour ne pas parler du problème essentiel qui est le support du logement, qui est donc le développement urbain, l'urbanisme. Donc on a des opérations qui sont, encore une fois, des zones d'aménagement concertées qui poussent dans la ville, mais personne n'a une vision globale. D'ailleurs, on a l'impression que dessiner le futur de la ville, et on l'a vu notamment pour les quartiers en rénovation de Bonnefoy aujourd'hui, on a une communication qui est faite à travers des bandes dessinées, mais on n'a aucune vision de ce qui va se faire. Donc il y a de ce fait, on peut dire, un manque démocratique très important, une absence totalement de débat, et on a de, ainsi une sorte d'infantilisation de la population et de la relation des élus, des organismes qui sont, comme Toulouse Métropole, qui sont dédiés et qui sont chargés du développement urbain, et on n'a aucune lisibilité. Alors ce n'est pas un cas toulousain, on peut dire que c'est un cas général, si ce n'est des phrases souvent creuses, toujours pareilles, d'une espèce de moraline, du bon sens, de sauver la planète, de se préserver de la chaleur, du climat qui va changer, etc. Et ou des choses comme on va désimperméabiliser les surfaces pour rendre la nature. Bon, j'ouvre une parenthèse, ce matin j'ai emprunté un chemin pour aller au métro, qui est un chemin gravillonné, après les quelques jours que l'on a eu de pluie, c'était un bourbier total. Bon, alors, bonne chance aux promoteurs qui veulent enlever la perméabilité des cours de récréation et des parkings, etc., pour les transformer en bourbier. Je ferme la parenthèse. Mais je reviens à l'urbanisme, et il y aurait des projets à faire, par exemple. Prenons un exemple à Toulouse, qui est la banlieue nord, avec l'axe de la route de Paris. Et on a avec Fonder et toute la barrière de Paris et au-delà des zones très importantes qui vont jusqu'à Aucamville, avec des on peut dire des aménagements industriels à moitié commerciaux industriels mélangés. Il y a aussi des gravières qui pourraient être des éléments de, on peut dire, positif, de récréation, d'embellissement urbain. Et on peut dire que la ville de Toulouse, qui n'est bloquée par aucune montagne, qui n'est pas bloquée par la mer, comme Marseille, ou l'estuaire de la Garonne à Bordeaux, ou des montagnes, comme dans de nombreuses villes, mais peut s'étendre des quatre côtés, on aimerait bien qu'il y ait une vision avec les communes de la métropole, une vision globale où on puisse imaginer quelle va être la ville du futur. Alors on a des grands mots sur la ville du futur, mais on aimerait bien qu'il y ait un débat sur des projets d'urbanisme, d'architectes, et qui ne soient pas des petites opérations faites au hasard des libérations du foncier, mais avec une vision globale. Et donc, la rénovation, par exemple, de toute cette arrivée nord de Toulouse, c'est une zone immense. On pourrait doubler, tripler la population de la ville. Il ne s'agit pas de cela. Mais en tout cas, la pénurie de foncier dont parle le maire actuel et dont dans une discussion avec le président national de l'Ordre des architectes en déplorant la pénurie des fonciers. Mais là, on ne manque pas de terrain, il suffit même de réhabiliter des terrains occupés pour les rendre au logement qui est comme je l'ai dit en tout début d'introduction de cette émission la priorité essentielle des Français, évidemment, des Toulousains. Alors, voilà, mon propos, c'est d'avoir la possibilité d'un débat global, mais un débat global qui sorte de ces petits problèmes de moraline et qui soit un véritable débat citoyen avec des arguments et aussi des possibilités, non seulement de parler, mais avec des maquettes, des dessins. Et aujourd'hui, avec la numérisation, on a des possibilités de simulation qui sont infini et dont on ne se sert pas. C'était Ouvrirons-nous demain. Je remercie l'excellent Sacha qui était à la technique. Et Sophie, qui est une auditrice fidèle de cette émission, qui nous assiste aujourd'hui. À la semaine prochaine.